C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver cette semaine à l'écoute de votre émission « C'est le temps qui fait la panique ». Ce programme hebdomadaire analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble en République démocratique du Congo. Je suis Jody Daniel Kachama à la présentation, accompagné de Jocelyne Moussaou-Pondé. Bonjour Jocelyne.
Bonjour, bonjour Jody, bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous abordons la problématique des sanctions internationales prises par des grandes organisations contre des individus ou des États afin de contraindre certains acteurs à mettre fin à des agissements contraires aux valeurs universelles. Dans la région des Grands Lacs, des acteurs clés dans les pays comme le Rwanda et la RDC ainsi que des responsables de groupes armés ont déjà écopé de telles sanctions.
C'est le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, la semaine dernière, a inscrit 6 individus et 2 entités sur sa liste des sanctions visant les groupes armés opérant dans l'Est de la RDC. Parmi les personnes sanctionnées, le 16 juillet 2026 figure Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et désormais chef de l'Alliance du Fleuve Congo, AFC, allié du M23. Sont également concernés Sébastien Oui Mbambazi de FDLR, Mohamed Lumissa des EDF et Charles Sematama du groupe Tuira Nero.
Et sur le terrain, comment ces sanctions sont-elles perçues? Quel danger une communication polarisante peut-elle représenter pour les relations entre parties au conflit? Et que faire pour que ces sanctions ne servent pas d'outil de positionnement politique?
Bien, pour en débattre, deux invités sont avec nous. Docteur Patrick Bala Malemba, président de l'Alliance pour la Nouvelle Vision du Congo, à Novik, et expert en polémologie et ancien coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation au Nord Kivu. Bonjour Monsieur Patrick.
Bonjour Monsieur Jody.
Nous recevons également Olivier Moinzé, écrivain et juriste de formation, diplômé de l'Université protestante au Congo, UPC. Il s'inscrit dans l'idéologie des pères fondateurs du panafricanisme, notamment Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah et Steve Biko. Bonjour, Monsieur Olivier Moinzé.
Bonjour, Madame Lucie.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule sur un campus où des étudiants réagissent à des sanctions infligées à une équipe adverse. On écoute.
La famille. Oh là 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 là. Mais vous savez quoi, aujourd'hui c'est pour moi.
Ah bon?
C'est moi qui régale, vous servez, vous. Faut fêter ça, c'est historique, c'est historique. Hé,
douce ma frangine. C'est quoi les bails? On célèbre quoi au juste?
Mais tu viens pas au courant ou quoi, Mani?
Au courant de quoi, pas?
La justice est tombée. L'équipe d'en face à Laoumbouijou vient de se faire éteindre. Oh. Le glas de la justice a sonné pour eux.
Non mais, Mbouta. Attends, Mbouta. Tu parles comme si on les avait condamnés à mort, là.
Mais écoute, ils le méritent, non?
Comment?
Non mais, ils faisaient trop les boss. Toujours là à foutre le bordel sur le terrain. En mode intouchable.
Oh.
Là, c'est bon pour eux. Et puis, tu sais quoi? Ils ont pris un méga karma. Hein. La fédération les a sanctionnés sévère. Carré.
T'emballes pas trop vite, frangine. Attends de voir si ça change vraiment un truc ou si c'est juste du vent. Je connais la fédération. Hein.
Mais au moins, ils ont capté qu'ils peuvent plus faire n'importe quoi sans que ça leur retombe dessus.
Frangine, c'est du blabla pour l'instant. Je te l'ai dit. La Fédé nous rejoue les mêmes films à chaque fois. Ils annoncent des sanctions, des punitions, des interdictions. Et tu sais quoi? Tout le monde on s'enjaille et au bout de 2 semaines après, ça passe crème comme si de rien n'était. Hein?
Et attendez, vous et votre fédération, vous pouvez annoncer 1000 sanctions si vous le voulez, mais ça aura zéro effet sur mon équipe.
Qu'est-ce qui te prend, Bill?
Tu vois quoi, bien sûr, commence.
Tu oses encore venir ici après les sanctions?
On a capté votre jeu. Ces soi-disant sanctions ridicules, c'est juste une excuse pour que la Fédé s'intrusse dans nos affaires.
Pardon?
Oui, je vous dis vrai. Et que ça vous aide à nous sortir du game. J'ai compris. Moi, je ne vais pas les.
Tu es déjà fini. Tu es fini.
C'est vous qui allez finir.
Fini. Vous êtes déjà hors jeu. On veut plus de vous. Partez.
Vous pouvez annoncer 1000 sanctions, ça ne fera aucun effet sur mon équipe, lance un personnage. Docteur Patrick Bala, quel regard portez-vous sur ces sanctions récemment prononcées contre certains leaders et entités? Sont-elles comprises par la population, y compris les membres des organisations visées?
C'est un problème d'éducation populaire, d'éducation de masse, qui fait en sorte que plusieurs personnes ne savent pas réellement ce qui se passe. Donc, une crise de communication fait en sorte que ce qui se passe au niveau de grands échelons, les gens qui sont au plus bas n'ont pas l'information et la réalité. Alors quand on parle de sanctions, généralement quand nous parlons des sanctions qui viennent des organisations ou des institutions internationales, ce sont des sanctions d'ordre diplomatique, d'ordre économique, d'ordre financier. Parce que ces sanctions, ce ne sont que des mesures. Mmh. Ce sont des mesures qu'on l'utilise comme étant des outils qui peuvent permettre à ce qu'on puisse frapper soit des individus, soit des États, soit de certaines entités, pour qu'il y ait un changement de comportement afin que les choses avancent. Parce que l'objectif capital de la plupart de ces organisations, c'est la paix. Alors, quand il y a conflit, il faudrait amener des outils, des moyens qui pourront persuader ceux qui sont auteurs de ces difficultés afin d'entrer sur le droit chemin de la paix qu'on recherche. Malheureusement, pour plusieurs personnes, ils pensent que quand il y a des sanctions qui sont d'ordre économique, d'ordre diplomatique et même financier et même individuel, les gens pensent que ces institutions ont le pouvoir d'arrestation. Donc, l'imaginaire collectif veut que c'est lui qui est fautif, d'office, doit être sanctionné. La sanction que l'on entend, c'est d'être emprisonné, d'être condamné, mis quelque part. Alors, pourtant, nous sommes dans la diplomatie. Dans la diplomatie, c'est ce qui est au centre, ce sont les intérêts et puis les relations bilatérales entre les parties, c'est-à-dire les pays avec les organisations internationales, les individus auteurs de ces problèmes-là. Ça, même dans le monde intellectuel, il y a moins de gens qui ont cette perception de fait. Mais dans la majorité des cas, en tout cas, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que réellement, vous voyez aujourd'hui, malgré les multiples sanctions qu'il y a, les gens sont restés dubitatifs. Dubitatifs pourquoi? Parce que les gens pensaient qu'à telle date précise, ça s'arrête, tel sera pris, tel sera arrêté. Et quand on ne voit pas ça, et surtout avec des ultimatums qu'on a donnés, on voit que la situation s'empire. Alors ça va rendre les gens dubitatifs face à cette situation. Donc c'est un problème de crise de communication, un problème de crise d'éducation sociale, un problème d'information réelle dans la masse collective.
Bien. Et vous, Olivier Moinzé, lorsque des sanctions sont annoncées, estimez-vous que des efforts suffisants sont fournis pour les expliquer aux populations par les parties prenantes?
C'est vrai qu'il y a ce travail qui s'est fait en termes de diffusion. Les sanctions sont largement médiatisées, relayées par le média. Mais par contre, là où les bas blessent, c'est justement cette pédagogie qui n'existe presque pas. Parce qu'il faudrait justement expliquer à la population en quoi consistent ces sanctions. Généralement, lorsqu'on parle des sanctions internationales, on fait allusion à la gel des avoirs. On fait allusion aux interdictions de voyager. On fait aussi allusion à certaines restrictions financières, voilà, même certains embargos. Mais par contre, on n'explique pas concrètement en quoi cela consiste. Voilà, c'est ça justement qui crée la désinformation, qui crée les rumeurs, qui crée même la mauvaise interprétation, qui peut justement déboucher à certaines stigmatisations d'une certaine classe politique ou encore d'une ethnie ou encore d'une communauté. Donc il n'y a pas vraiment cette pédagogie-là qui peut venir des médias, des structures de l'État pour expliquer à l'opinion à quoi consistent ces sanctions exactement.
Et le langage utilisé par les autorités et les médias permet-il aux partis de les percevoir comme une mesure de justice ou plutôt comme une punition imposée de l'extérieur?
Justement, c'est là qu'il y a le problème. Bon, tout dépend des mots et des messages qu'on utilise. Si on utilise des mots et une communication qui vont dans l'idée de pouvoir défendre une victoire politique, je pense que cela peut léser justement une communauté ou une certaine ethnie dans la mesure où celle-ci va se sentir assez rabaissée, assez diminuée par rapport justement à la sanction. Mais si cela est expliqué de manière assez juridique et pédagogique, dans la mesure où on veut expliquer que ces sanctions ont été prises pour interpeller, pour sécuriser, pour garantir la paix et la sécurité nationale et régionale, je ne pense pas que cela va poser de problème. Ça dépend de la manière dont on va communiquer. C'est ça justement qui va déterminer si cela sera pris comme une punition ou comme une sanction proprement dite. Mais dans les cas d'espèce, des fois, on a l'impression que ces sanctions sont accueillies comme des victoires politiques pour certains. Voilà, et qui crée une certaine stigmatisation et certaines personnes sont lésées et ça blesse certains.
Merci pour ces éclairages, Olivier Moisé. Écoutons maintenant un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois-ci, les étudiants s'interrogent sur la véritable portée des sanctions.
Mais quelqu'un peut m'expliquer
ce qui s'est passé? Non, mais tu vois pas ce qu'il est en train de faire, Kitoko.
C'est quoi ce bordel entre vous là?
Mais Kitoko, c'est Mboui qui fait sa victime. Il fait sa victime alors que tout le monde sait que ses sanctions fantaisistes contre son équipe ne seront jamais appliquées. C'est différent. Et avant, on a vu les biotes.
C'est normal que tu dises ça. Comment tu veux capter alors que c'est vous qui poussez la Fédé à nous crucifier avec vos sanctions abusives?
Non.
C'est vous le problème.
C'est vous le problème.
Comment se calmer? Respirez. Non, respirez. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, vous faites la honte là! Oh, parler de ces sanctions comme ça en mode complot de l'un contre l'autre, ça va juste empirer le bif entre nos équipes, les amis. Hein? On est où là? Oh! Déjà, vous avez tout faux.
Ah bon?
Comment ça? Aucune équipe en soi n'est visée. Aucune!
Équipe! C'est pas possible. Équipe ou Anikin est visée tout?
Mais non, frérot.
Mais il y en a qui sont sanctionnés là.
C'est pas l'équipe au complet. C'est juste quelques cadres qui ont aggravé les conflits qui vont être sanctionnés en perso.
Ok.
Et je vous signale que c'est pas que chez vous, hein. Il y en a qui sont dedans, même chez Mbouta.
Attends, quoi, même chez nous?
Non. Lisez bien le verdict, ma chérie. Lisez bien, Botanra bien. Oh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Les buts de la Fédé, c'est pas de condamner telle ou telle team.
Vraiment?
Oui.
Ah, je n'y crois pas. Quoi,
c'est de pousser les responsables des deux teams à enfin s'asseoir et trouver intérêt d'entente. Forcer à se parler, c'est ça le but.
Ouais, mais tu sais que sur ce sujet, il y a trop de rencontres.
Je sais. Mais si vous tous commencez à parler des sanctions en mode complotiste, à sortir des théories cheloues comme ça, on va juste tout envenimer, les amis. Tout envenimer. Hein? Vous savez, avec ces jeux, il faut prendre un peu de recul. Il faut qu'on zonga sima, qu'on la musique. Et surtout, rester positif. Et en parlant de façon constructive, en mode intelligent.
Vos sanctions, c'est juste un écran de fumée. En réalité, la fédération vous couvre, lance un étudiant en colère. Docteur Patrick Bala, pourquoi le mot ingérence revient-il si souvent dans les discours des responsables politiques et militaires lorsqu'un pays ou une organisation internationale impose des sanctions?
Oui, généralement, vous allez vous retrouver dans des cas où la plupart de ces dirigeants de ces pays se retrouvent en difficulté, c'est-à-dire en porte-à-faux avec leur population, ou avec leur peuple, par rapport aux objectifs qui s'étaient assignés dans la gestion collective de leur société. Alors, il peut arriver qu'on vire vers la dictature, vers la tyrannie, et que le peuple n'est pas d'accord, et que vous savez que ces institutions internationales auxquelles on a ratifié spécifier certains traités, on est obligé de les respecter. Et quand ces institutions et quand ces organisations viennent intervenir, automatiquement, généralement, la plupart de ces dirigeants trouvent ça comme étant une ingérence, oubliant ce qu'ils ont ratifié, parce que dans les textes de ratification, il y a des interdits et il y a ce qui est autorisé à être fait. Il nous faudrait que tout le monde ayez un même langage, un même discours pour se dire ce qui est prioritaire.
Unis,
oui, ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est l'unité nationale. Ce qui est prioritaire, c'est l'État que nous devons sauver, c'est notre république, notre mère terre qui est notre patrie, que nous devons normalement sauver. On doit avoir un discours. C'est pas en ce moment qu'on doit avoir de l'opposition. C'est pas en ce moment-ci qu'on doit avoir le pouvoir. En ce moment-ci, on doit avoir et la société civile, et les politiques, et les militaires, tout le monde, faire front commun face à l'ennemi. Parce qu'on est en face d'une agression, il faudra avoir un discours commun. Tout simplement, nous l'avons dit même à certaines autorités qui ne veulent jamais nous écouter, pour dire, pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle la communication de guerre. Mais nous, malheureusement, nous sommes dans
La communication des crises.
Mais par contre, chez nous ici, nous ne sommes même pas dans cette communication. On est soit dans l'information seulement, pour dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire le médecin après la mort. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes dans la riposte. Kagame a dit, on répond à Kagame. Non, mais la communication doit s'asseoir pour mobiliser toute cette population, le faire voir réellement ce que nous sommes en train de subir. Nous pensons qu'après la guerre, on peut rentrer dans notre démocratie pour discuter, pouvoir, mandat et autre chose. Il faudrait sauver cette nation. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours appelé à l'institutionnalisation, mettre en place un cadre de communication permanente où on appelle la plupart des leaders d'opinion, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit pour relayer le message.
Ça parler, peut passer parler, à la... parler un même langage.
Ça peut passer aux médias. Ça peut passer aux médias, mais tout le monde n'a pas une radio, tout le monde n'a pas une
télévision. Docteur Bala, comment une mauvaise communication peut-elle devenir un catalyseur des tensions si aucune mesure n'est prise?
Mais c'est un danger. C'est un danger permanent. Vous amenez une mauvaise communication. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui Kalemi est tombé. Parce que moi, je suis de Goma, je viens de Goma. Quelqu'un qui vous dit que Goma est tombé, pendant que Goma n'était pas tombé, nous étions à Goma. Et ce sont les gens qui sont au Canada qui vous appellent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? La conséquence immédiate, tout le monde est en dispersion. L'armée perdue.
C'est la panique.
Et l'ennemi en profite pour entrer. Mais si nous avons la même communication, la même visée, Goma est tombé, Goma n'est pas tombé, Goma ne tombera jamais. Vous voyez un peu ça? Nous pensons à Kipavita, nous pensons à Lumumba, nous pensons à tel qui nous ont légué cette terre. Nous devons la défendre à tout prix. Prenez le cas, je vous donne le cas de la Russie. Vous pensez qu'en Russie, il n'y a pas de mort? Toutes les bombes de l'Ukraine là qui déchirent en Russie, qui a déjà vu les images de la Russie? Mais ils ont mis un cadre pour protéger leur patrie, pour ne pas montrer qu'ils sont faibles face à l'ennemi. C'est ce qui nous manque en ce moment-là. Quand il n'y a pas la communication, comme l'a dit mon co-débatteur, quand il n'y a pas cette communication, il y a le soupçon. Et le soupçon crée tout ce qu'on a comme Toiboui. Chacun devient journaliste, chacun ramasse un rien là. Et nous subissons, nous laissons l'espace aux fake news.
Merci, docteur Patrick Bala, Olivier Amoisé. Quels sont, selon vous, les dangers d'un langage qui transforme une sanction individuelle en confrontation entre peuples?
Les dangers qui peuvent ressortir du fait qu'on veut déplacer l'idée de l'individualisation d'une sanction pour justement la coller à toute une entité. Je pense que en droit, déjà lorsqu'on parle des sanctions, la sanction est individuelle. C'est les délinquants qui a délinqué qui doit subir justement ces sanctions. Alors je pense qu'il faudrait aussi faire passer ces messages lorsque ces sanctions sont justement données, pour que les gens comprennent que on n'est pas en train ici d'attaquer une communauté, on n'est pas ici en train d'attaquer un groupe des individus. Lorsque les organisations justement donnent ces sanctions, vous avez principalement, vous avez l'ONU, vous avez les États-Unis, vous avez les Canada, vous avez l'Union Européenne qui sanctionne aussi, elles ne visent pas des communautés, elles ne visent pas des tribus, elles ne visent pas des ethnies. Elles sanctionnent la personne qui a entravé certains principes à l'international, qui a entravé les lois, qui a entravé ces principes du droit international qui justement constituent le beau vivre entre États. Et c'est cette personne-là qui est sanctionnée. Mais lorsque ces sanctions commencent à être maquillées, commencent à être habillées comme quoi on a sanctionné un groupe des personnes, je pense que c'est là justement qu'est vient l'amalgame. C'est là que peut aussi ressortir l'insurrection. Et justement, comme mon co-débatteur l'a dit, nous sommes en plein crise. La région du Grand Lac, je vais dire, brûle de partout depuis certaines décennies. Alors, lorsqu'on a cette communication où la sanction doit être habillée pour attaquer une communauté, un coin de la République, je pense que ça augmente les tensions.
Ou c'est peut-être les communautés qui interprètent mal, hein, oui, en voulant s'approprier ces sanctions-là.
Ben oui, je refuse pas. Les communautés peuvent interpréter mal après avoir reçu l'information. Elles ont reçu quelle qualité d'information? Et c'est ça justement qui crée des tensions. Après, ça va créer une division viscérale qui va justement faire en sorte qu'on n'aura pas ces Congos beaux et unis.
Merci Olivier pour vos analyses. Chers auditeurs, vous écoutez, c'est le temps qui fait la panique. Aujourd'hui, nous analysons le langage autour des sanctions internationales. Souvent prononcées mais différemment expliquées, elles peuvent susciter rejet, amalgame et généralisation. Docteur Patrick Bala, selon votre expérience, comment parler des sanctions de manière constructive et positive sans heurter les sensibilités ni exclure les uns et les autres, notamment dans le contexte du conflit entre la RDC et le Rwanda?
L'autorité nationale devait faire en sorte que tout le peuple sente qu'il est en guerre. Vous comprenez? Que l'on sente que nous sommes d'abord en guerre, que l'on sente que nous sommes agressés. Pourquoi il n'y a que Kagame qui nous dérange? Vous comprenez? Pourquoi on cite certains Congolais dans ça? Il y a eu un mouvement avec l'AFDEL. Après l'AFDEL, c'était le RCD. Après le RCD, c'est le CNDP. Après CNDP, M23. Pourquoi il y a des Congolais dans ça et il n'y a que le Rwanda qui est en train de commander ça? Il faut que les gens comprennent d'abord ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas apporter des solutions. Vous ne pouvez pas apporter des solutions à un traitement tant qu'un diagnostic n'est pas encore établi. Mais maintenant, que les gens ne connaissent pas réellement ce qui se passe, les gens s'en foutent. Vous comprenez? Il y a des informations, on a violé les mamans, c'est tout, et puis ça passe. C'est dire, comme je l'ai dit, l'autorité nationale doit normalement faire de la communication la priorité des priorités durant la guerre. La guerre, c'est quoi? Vous voulez résoudre la guerre? Et là, besoin de cette approche holistique, à la fois militaire, bien sûr, diplomatique, bien sûr.
Elle est aussi médiatique.
Judiciaire. Hein. Communicationnel, médias et tout ça, économique. Maintenant, dans chaque spécificité, il faudra faire le plein. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre la population ne sait rien des aspects militaires, pas ses stratégiques et ses secrets. Ce qui se passe sur le plan diplomatique, la population ne sait absolument rien. Mais sur le plan communicationnel, qu'est-ce que nous devons dire à cette population? La genèse de cette guerre, les complicités qu'il y a dans cette guerre, faire voir le patriotisme au-dessus de tout. Si on arrête quelqu'un, ce n'est pas sa communauté qui est arrêtée, il s'agit d'elle, il est criminel selon le droit international, même le droit...
Selon les infractions...
L'infraction commise, oui. Parce que l'infraction est individuelle. Tel a fait ça, il est passible des sanctions.
Docteur Patrick, quelle responsabilité individuelle porte chacun lorsqu'il relaie des propos qui minimisent ou instrumentalisent une sanction?
Mais non, là... C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'autorité nationale. Quand tout le monde est informé et chaque institution sait faire son travail, parce que je sais qu'aujourd'hui, sur le plan numérique, les gens sont poursuivis. Il y a une loi sur le numérique aujourd'hui. Les gens sont poursuivis. Quelqu'un qui minimise ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est assimilé à ce qu'on considère comme des traîtres de la nation. Parce que nous sommes face à l'ennemi. Bien qu'un mal peut nous arriver à la maison. Je ne vois personne dire à tout le monde sur le toit pour dire que son père est un ivrogne. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Personne ne peut dire ce qu'il y a de mal dans sa propre maison. Pourquoi nous, Congolais, nous devons faire ça? Donc, nous devons réprimander ces tels actes, ces tels propos. Il y a les actes et les propos. Il y a les gens qui ne font pas des propos. Il y a les gens aussi qui ne font pas les actes.
Par leurs agissements.
Oui, par leurs agissements, vous êtes en train de voir. Mais l'agissement, ce n'est pas l'effet seulement que quelqu'un réprimande ce qu'il a appris. Non, tel a été sanctionné, bon, ça ne dit rien. Non, il n'y a pas seulement ça. Mais il y a de ces gens qui sont parmi nous, mais qui relayent, n'est-ce pas, les informations de l'ennemi, qui jouent le jeu de l'ennemi en étant avec nous.
C'est une façon aussi de nous contrecarrer. Donc, au lieu de faire passer le message qui vient de la République, lui prend le message de l'ennemi et le relaye ici. C'est une faute individuelle qui devrait normalement être sanctionnée. Donc, tout dépend de la manière dont on trace la ligne, n'est-ce pas, j'ai la peine nationale, en termes de communication, en termes de formation, et que les médias que nous avons entrent dans la même ligne. Quand j'ai insisté sur la Russie, en Russie, on ne parle pas de mort aux médias. En Russie, on ne parle pas de défaite des entités perdues. On ne parle pas de tout
on
ça.
Ne critique pas
on
son
ne
pays.
Parle que de la victoire de la Russie sur l'Ukraine pendant qu'ils reçoivent des bombardements. Donc, vous voyez un peu, c'est ce sursaut qu'on doit mettre dans la population, citoyen, qui nous manque aujourd'hui.
Le sursaut patriotique.
Patriotique pour dire nous sommes agressés. Pour toute personne, même son père est agressé, il va chercher tous les moyens pour défendre sa maison, pour défendre sa famille, pour défendre son père. Je crois que c'est cet état d'esprit qu'on doit mettre dans le Congolais aujourd'hui pour nous dire si on entend quelqu'un minimiser les phares d'essai, minimiser les efforts par exemple du gouvernement, en train de relayer les messages de l'ennemi, celui-là est passible de certaines sanctions. Vous voyez, en ce moment-là, on va refroidir l'action de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, l'ennemi avait pris à un certain moment de l'avance parce qu'il travaillait beaucoup avec plus de complices à l'intérieur sur
avec
le plan de l'information. Donc, à cause de ces relais, il faudrait normalement les sanctionner.
Merci beaucoup, docteur Patrick Bala. Je vais m'adresser maintenant à vous, hein, Olivier Moinzé. Quel rôle les médias, les autorités et la société civile peuvent-ils jouer pour éviter la polarisation du langage autour des sanctions?
Je pense qu'il y a les trois entités qui ont un rôle assez important. Bien sûr que chacun a sa responsabilité. Vous avez le média, vous avez les autorités, vous avez aussi la société civile. Alors avec les médias, je pense qu'il faudrait favoriser ou privilégier dépasser la bonne information, la vraie, la vérification de l'information. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a tellement évolué que je pense que les vraies guerres, les véritables guerres sont plutôt médiatiques. Donc l'information brûle, l'information peut enflammer beaucoup de choses sur la scène nationale. Je pense que les médias doivent passer la bonne information et puis éviter les titres brûlants. Parce que l'information peut être très bonne dans son contenu, mais quand on l'habille, on donne un titre assez brûlant, enflammant lorsqu'on la donne.
Éviter les, côté, les sensationnels.
Les sensationnels, justement, il faudrait l'éviter. Là, c'est la responsabilité qui incombe aux médias. Et après, vous avez la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que les autorités... Nous voulons voir les autorités dans du classique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des sanctions, les autorités doivent communiquer avec des soubassements juridiques, avec des fondements légaux, justement, pour que tout le monde les prenne de manière assez nationale. Faudrait pas que les autorités communiquent pas ces sanctions avec de partis pris avec des penchants. On a tout de suite l'impression que c'est un camp qui est en train de proclamer la victoire. Voilà, on a la Constitution, on a le loi, on a même certains traités qu'on a ratifiés. Donc s'il faut communiquer ces sanctions, faudrait se baser justement sur le texte qui sont là. Et finalement, nous avons la responsabilité de la société civile. Je crois que la société civile a une responsabilité d'éducation, une responsabilité pédagogique, dans la mesure où il faudrait que les associations éduquent, défendent en comble justement nos citoyens, expliquent de manière assez détaillée en quoi consiste, pourquoi ces sanctions ont-elles été données à X ou Y personnes. Je crois que c'est tout ce travail qui serait fait de manière assez tripartite qui va permettre ainsi que les tensions se calment, surtout en temps de guerre et des conflits avec nos voisins. Je pense que si ces trois entités font bien leur travail, je pense que tout va aller pour les mieux.
La société civile, vous avez parlé de la société civile.
La société civile, il y a les autorités et les médias.
Voilà. Et les médias. Ouais. Mesdames et messieurs, nous amorçons déjà l'atterrissage de cette émission. Merci à nos invités, Dr Patrick Bala et Olivier Moinzé, pour leurs brillantes interventions. Ce que nous retenons, c'est que les sanctions ne sont pas seulement des mesures économiques ou politiques, elles sont aussi des instruments de langage. Les mots employés peuvent créer des camps opposés et alimenter la méfiance.
Oui, je dis aussi d'un côté, elles sont vues comme un outil légitime pour appeler à l'ordre. De l'autre, elles sont dénoncées comme abusives ou instrumentalisées. Le défi est de dépasser ces langages conflictuels pour adopter une approche constructive, clarifier les objectifs et ouvrir la voie à la réconciliation.
Merci à Dr Patrick Bala et à Olivier Moinze, nos invités, et nous disons également merci
à Jean-Claude
Siala, à la régie, à la technique. Merci surtout à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité.
Mesdames et messieurs, retenez ceci, la sanction ou les sanctions divisent les puissants, mais ce sont les mots qui divisent les peuples. C'était votre émission, c'est les tons qui fait la panique, proposée par l'ONG La Benevolentia, en partenariat avec Radio Capi. Vous pouvez suivre ce programme en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 et en podcast sur radiocapi.net et à barirdc.net.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur nos pages Facebook et X. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir.